Salut à tous, bienvenue dans l'émission Arrêt Buffet. C'est parti pour une nouvelle saison avec toujours Imanol Arinordoki en joueur majeur de l'effectif. Salut Imanol.
Bonjour à tous.
À ses côtés, deux journalistes du Midi Olympique, Simon Valzer et Pierre-Laurent Gou. Bonjour messieurs.
Bonjour messieurs, très content Bonjour. De la reprise.
Quant à moi, Simon Farvac, je vais tenter de faire briller mes compères en organisant les débats. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et vous pouvez aussi le consulter via des extraits vidéo sur rugbyrama.fr et eurosport.fr. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord parler de Virimi Vakatawa, contraint d'arrêter sa carrière professionnelle de joueur de rugby en France pour des raisons médicales. À quel point a-t-il marqué le rugby français depuis une dizaine d'années? C'est l'objet de notre premier sujet. Avec une victoire sur la pelouse de l'UBB 25-26, Toulouse a bien débuté sa campagne de reconquête du trône en top 14. Intersaison, Coupe du Monde dans un an, esprit revanchard peut-être, on va discuter des chances de titre du Stade Toulousain dans la deuxième séquence de l'émission. Et on va terminer ce podcast par un crochet du côté du 15 de France. Fabien Galthié a évoqué la question du capitanat dans un entretien accordé au Midi Olympique il y a quelques jours. Charles Olivon, Antoine Dupont ou quelqu'un d'autre, qui doit porter le brassard chez les Bleus? On vous donne notre avis. Voilà, vous connaissez le programme. Arrêt Buffet, c'est parti. Virimi Vakatawa est contraint d'arrêter sa carrière professionnelle de joueur de rugby en France pour des raisons médicales, la faute à une anomalie cardiaque. On l'a appris en début de semaine et on avait envie ce jeudi d'évoquer la place importante qu'il a occupée pendant une dizaine d'années dans le rugby français, ou en tout cas, plus précisément, depuis 3-4 ans, il était devenu un joueur majeur du 15 de France. Imanol, quel regard tu portes sur sa carrière en équipe de France?
C'est un joueur tout d'abord qui a marqué l'équipe de France de par sa singularité. Hein. Voilà, c'est un profil dont on ne disposait pas en France et qui a vraiment amené son rugby à un très haut niveau. Il a surtout travaillé aussi dur physiquement, parce que pendant sa carrière, il y a eu des périodes où il était moins performant parce que je pense qu'il était moins bien physiquement. Et quand il a pris cette dimension, en tout cas, de titulaire en équipe de France, je pense que du moment où il a formé la paire avec notamment Gaël Ficou, il pouvait postuler avec cette paire à devenir l'une des meilleures paires de centre du monde. Et voilà, c'était un joueur quand même assez exceptionnel. On a beaucoup parlé de lui offensivement, mais défensivement, il a quand même mis secoué de la barbac. Puis offensivement, voilà, c'est vraiment un joueur qui était capable de fixer 2-3 joueurs, de faire des différences énormes, de par sa capacité à faire des offloads, des passes après le contact, voilà, avec des gestes de classe mondiale. Donc voilà, c'est avec beaucoup de regrets qu'on a appris qu'il ne pouvait pas continuer, en tout cas, sa carrière de sportif de haut niveau. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une grave blessure, je ne pense pas, parce qu'il avait déjà eu quelques alertes, il était suivi de près par rapport à une petite anomalie cardiaque qui a évolué. Bon, voilà, le plus important, c'est qu'il aille bien. Et je crois qu'il va être aussi très bien encadré au Racing et pris en charge pour intégrer, en tout cas pour faire partie et continuer à faire partie de la famille des bleus ciel et blanc. Donc c'est dommage, on le reverra plus, mais c'est sûr qu'il aura marqué énormément, notamment l'ère Galthié.
Vakatawa, c'est donc une carrière qui risque de s'arrêter, en tout cas en France, selon les infos qu'on a, à 30 ans et 32 sélections et 10 essais en équipe de France. C'est pas énorme, mais au niveau de l'impact depuis quelques années, c'était très important. Simon, tu partages cet avis, c'était devenu un joueur majeur du dispositif de Galthié?
Oui, c'était un joueur majeur. Enfin, il l'a longtemps été. Il faut quand même rappeler que ces derniers temps, il l'était moins. Bien sûr, il a participé à la tournée au Japon, mais il avait aussi souffert de quelques petites blessures. Puis il y avait une telle concurrence. Il y a une telle concurrence à ce poste de centre. Hein. On a de la chance. En France, on est vraiment bien pourvu. Qu'il avait progressivement cédé sa place, notamment à Jonathan Danty, qui avait signé un excellent tournoi. Mais c'est sûr qu'il était dans la course pour faire la Coupe du Monde. En tout cas, la concurrence aurait été très dure. C'est un joueur, oui, qui a marqué. Moi, ce que je retiens de lui, c'est son repositionnement gagnant, en fait, du poste d'ailier à celui de centre, parce qu'on ne s'en souvient pas forcément, mais ses débuts avec l'équipe de France n'ont pas été fracassants. C'est un joueur qui a été appelé en sélection, qui a fait quelques apparitions, puis ensuite qui est reparti, et en club qui s'est reconverti au poste de centre, où là il est devenu excellent, et comme le disait Imanol, qui faisait partie des meilleurs centres du monde. Donc moi, c'est ça que je retiens de lui, quoi. C'est vraiment parce que c'est quand même deux postes vraiment différents. Et c'est en fait au poste de 13 qu'on voyait le plus ses qualités de 13iste, quoi, où on est obligé de défendre un couloir de 8 mètres de large, où c'est très difficile, et où il a pu faire parler vraiment toutes ses qualités. Ouais.
Et au-delà des deux postes qui sont différents, il y avait même deux sports quasiment. Parce qu'il a eu la particularité d'être un joueur sous contrat fédéral pour jouer en rugby à 7 avec l'équipe de France et en rugby à 15. Donc à ce moment-là, il n'avait plus de club pendant un certain temps. Donc c'est vrai que ça entraînait une situation assez particulière où c'était vraiment son talent qui sautait aux yeux, mais en termes de repères collectifs et de placement sur le terrain, c'était plus compliqué de jouer à deux rugby comme ça. Et sachant en plus qu'il a commencé ailier, comme tu le disais, moi je l'ai côtoyé quand je jouais en espoir il y a une dizaine d'années au Racing, où effectivement il était ailier et qu'on voyait que c'était un diamant brut, mais qui
Un
était à polir.
extraterrestre.
Voilà. Il a fait le boulot qu'il fallait techniquement, tactiquement aussi, pour devenir plus qu'une météorite, un joueur qui écrase tout très jeune et être sur la durée encore meilleur au poste de centre. Pierre-Laurent, qu'est-ce que tu as à nous dire de plus, à ajouter sur Virimi? C'est un joueur aussi qui t'a marqué ces dernières années?
Oui, alors je vais essayer de ne pas redire la même chose qu'Imanol et Simon parce qu'ils ont été assez complets. Essayer de faire abstraction à l'émotion, notamment de l'annonce de son problème cardiaque et de l'arrêt de sa carrière. Alors, tu disais en France, on peut préciser même sa carrière tout court. On a pu avoir plusieurs de ses proches, à la fois intimes et à la fois professionnels. Et a priori, il ne postulera pas pour aller au Japon ou même en Angleterre. Il s'est servi de son passé, comme tu disais, de 7 pour aller à 15. C'est un choix personnel, hein, parce que quand il signe avec la fédération, pardon de parler d'économie, entre guillemets, mais le Racing ne le lâche pas comme ça dans la nature. Voilà, si jamais c'était inscrit dans son contrat, il y avait une clause. Si jamais il revenait à 15, le Racing avait la primauté de la possibilité de la proposition, ce qui a été chose faite. Et puis le 7 et le 15, maintenant on en parlerait mieux que moi. Entre le 7 et le 15, c'est pas tout à fait les mêmes sports, mais il y a quand même des vraies passerelles, notamment pour les trois ailiers, les trois quarts centres ou les ailiers. Ils découvrent pas une nouvelle langue, quoi, en passant à 7. Et la dernière chose que je voulais dire, Simon l'a un peu dit, c'est que voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui, c'est une très mauvaise nouvelle, je pense, pour le Racing. Et on a cette chance, comme il a dit Simon, c'est qu'en équipe de France, on arrive à une génération à ce poste où on a vraiment du monde. Entre Gaël Ficou, qui est un peu le taulier ou le papa des lignes arrière, capitaine de la défense. Et après, il y a pour le poste de 13, il y a plusieurs prétendants. Voilà, on a parlé du Jonathan Danty qui a fait une saison tonitruante, Arthur Vincent qui était blessé, Barassi qui est surveillé du coin de l'œil. Donc c'est vrai que, et Simon le relatait, on a gagné le Grand Chelem sans lui et ça n'a pas posé souci.
Oui, c'est vrai que ce sont des problèmes de riches que l'équipe de France redécouvre. On en reparlera d'ailleurs dans le troisième sujet de cette émission. Mais avant ça, on va évoquer le cas du Stade toulousain. Détrôné la saison passée, le Stade toulousain va tenter de reconquérir le Brennus cette saison. Et cela a plutôt bien commencé pour Toulouse, avec un succès sur la pelouse de l'UBB dimanche 25-26. Alors, avant d'élargir le sujet aux chances de sacre du club de la Ville Rose, on va débriefer cette rencontre. Tu en as pensé quoi, Simon?
Ah, moi, j'ai adoré ce match. Franchement, je me suis régalé. Je m'attendais pas à une telle rencontre là pour le compte de la première journée. J'ai été surpris de l'ambition des deux équipes à jouer. J'ai été surpris de l'intensité de la rencontre, même dans les chocs et tout ça. Enfin, ça a été vraiment un match que j'ai trouvé sublime. J'ai trouvé Zach Holmes incroyable. Romain Ntamack qui fait des exploits en solitaire, qui a renversé la table pour renverser la rencontre. Ouais, vraiment. Après, le scénario est presque un peu cruel pour les Girondins, mais voilà. Enfin, malheureusement, ils n'ont pas tué cette rencontre. Et quand on a des joueurs de la classe de ceux du Stade Toulousain en face, voilà, il faut pas laisser passer les occasions. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que les recrues respectives des deux clubs ont tous fait des matchs énormes. On a eu un Alexandre Roumat qui a mis un point d'honneur à faire un match excellent face à ses anciens
Avec une
partenaires.
sorte de 4 deb et une petite passe qui fait la
Ouais,
différence là.
carrément.
Grosse présence en touche.
Ouais, une belle présence en touche aussi. Antoine Miquel, côté UBB, pareil pour les Toulousains. Enfin bref, Imanol pourra en parler. Il les a tous côtoyés de près, j'imagine. Donc voilà, non, je me suis régalé. C'était un match fantastique.
Pareil pour vous, messieurs, Imanol.
Ouais, il y avait une volonté de part et d'autre d'afficher déjà les recrues qui avaient joué dans le club adverse. C'est une marque aussi un peu typique, que ce soit du Gomola ou du Rios, de dire à ces joueurs, ben, montrez-leur qu'ils ont eu tort de ne pas vous faire jouer. Donc, c'est des joueurs qui ont répondu présent. Et forcément, il y a eu un niveau de jeu pour une première journée qui était totalement différent peut-être des autres rencontres. On sait qu'en général, les premières journées, elles sont toujours un peu poussives, un peu manquées de rythme, de repères collectifs. Il faut se remettre dans le bain. Et là, de suite, on est rentré dans le vif du sujet. Il commence à y avoir un peu aussi de passif entre ces deux équipes. Donc,
Ouais, ça commence à être sympa là.
ça amène un peu de piment, même si je pense que sur la rencontre, Bordeaux aurait peut-être mérité de l'emporter. C'est notamment Toulouse et Romain Tamac, comme le disait Simon, qui a renversé la table pour aller chercher cette victoire à l'arraché. J'ai envie de dire que Toulouse a fait du Toulouse. Hein. Ils sont dans le match et puis au moment décisif, eh bien, ils mettent un coup de poignard dans le dos des Bordelais. J'aimais en tout cas, pas une interrogation, mais je me dis que du côté de Bordeaux, il faudrait pas trop aller chatouiller les joueurs, parce que j'ai l'impression qu'on commence la saison comme on l'a fini. Voilà, avec une déclaration de Christophe Furios qui a dit que c'est les joueurs qui méritaient d'être, en tout cas de jouer, qui étaient sur le terrain, et surtout les joueurs qui étaient là pour le collectif. Alors on sait que les phrases de Christophe Furios ne sont pas anodines, donc il ne faudrait pas qu'ils se mettent le bazar d'entrée.
Je suis assez d'accord avec Imanol sur la fin de sa réflexion, et notamment on le voit. Je reprends le propos de Simon sur Zach Holmes. Moi, j'ai l'impression que le tournant du match se fait à la sortie de Zach Holmes. Voilà, des fois les coachs réussissent leur match en faisant les bons remplacements. Là, Zach Holmes était dans le match. Le dimanche soir à la rédaction, on s'est tous interrogés pourquoi sortir Zach Holmes, qui avait l'air d'être dans son match et pas fatigué, pour faire entrer Mathieu Jalibert. Et puis, parce qu'on a oublié dans notre constat, c'est que Mathieu Jalibert a deux balles de match, et notamment une assez facile au pied, qui rate franchement. Et ça me permet de me raccrocher au dernier propos d'Imanol sur la fin de la saison de l'UBB et les tensions qu'il y avait eu entre Urios et certains de ses joueurs, dont notamment Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert était peut-être frustré d'être remplaçant, mais il a pas donné tort à son coach, quoi.
Voilà, c'est clair.
Ça, c'est un sujet dont on va certainement reparler dans les émissions à venir. Parce qu'effectivement, la relation conflictuelle ou pas entre le staff et les joueurs de l'UBB, ce sera un fil rouge de cette saison, parce que des fois, il peut aussi y avoir de grandes choses qui naissent de ça. Vous
Oui,
pensez pas?
mais tu peux enlever le ou pas, hein. Enlève le ou pas,
Et pour rester sur Toulouse, donc en attendant de revenir vers l'UBB, qui va nous occuper dans les semaines à venir, est-ce que vous considérez que Toulouse est le grand favori de cette saison en top 14? Ou est-ce que vous le mettez parmi la liste des prétendants et pas un petit cran au-dessus?
Alors, il y a beaucoup de prétendants aujourd'hui. On l'a vu la saison passée, il y a 10 clubs qui jouaient la qualif. On a vu qu'il y a des situations qui peuvent évoluer très rapidement. On peut être sur un nuage pendant les phases de championnat et puis s'écrouler au moment des matchs éliminatoires. On peut arriver aussi, tant bien que mal, à se qualifier et puis trouver une superbe dynamique sur la fin de saison pour aller chercher un titre. Tout le monde n'aurait pas parié sur Montpellier l'année dernière. Ils ont eu la baraka quand même. Ils ont fait des matchs assez monstrueux, hein, que ce soit bon, déjà en demi-finale et puis en finale. Maintenant, c'est sûr que c'est l'un des prétendants. Moi, je les mets dans le top 3 des équipes qui vont prétendre au titre. Maintenant, on connaît le marathon et l'intensité du top 14 qui est intransigeant, où le moindre point va compter. Donc, il va falloir tout prendre en considération. C'est aussi une année de Coupe du Monde, donc c'est à prendre en considération. Il va falloir aussi ménager certains joueurs. C'est une année particulière. Même si les joueurs qui seront sur le terrain internationaux, ils se donneront à fond pour justement éviter de se blesser. Mais voilà, c'est toujours une année particulière. Donc, les clubs pourvoyeurs de nombreux internationaux comme Toulouse devront aussi gérer leur effectif. Voilà, donc quid des blessures aussi qui peuvent jouer dans des périodes un peu compliquées où on peut laisser passer beaucoup de points. Donc voilà, c'est encore une saison qui va être excitante, qui va être faite de rebondissements, d'aléas, de blessures, de coups de gueule, des équipes aussi qui vont se foutre le bazar. Ce qui est sûr, c'est que Toulouse va devoir et va vouloir prétendre de nouveau à son statut après une saison, on va dire, pas réussie en tout cas, parce que c'était quand même une très belle saison, mais quand on est habitué à
D'ailleurs, toi, Emmanuel, tu as été double champion de France 2005-2006. Quand on est comme ça 2 années de suite au top et qu'on se fait bousculer du trône, on fait plus que vaciller, on se fait piquer la place. Comment réagis-tu? Tu penses que les mecs là, à Toulouse sont particulièrement revanchards ou pas?
ben c'est sûr qu'ils vont être revanchards parce que ça a quand même été une année compliquée pour eux l'année dernière. Malgré tout, ils ont réussi à se qualifier, à jouer deux demi-finales. C'était pas gagné quand même au moment de la saison. Senti quand même en perte de vitesse. Ils avaient aussi un peu perdu le rugby. Par moments, ils ont voulu trop surjouer, jouer devant la défense. Ils ont fait beaucoup d'erreurs individuelles, techniques notamment, des fautes de main qui n'étaient pas habituelles chez eux. Donc ils n'arrivaient pas à retrouver le rugby vidé qu'on leur connaît. Donc, ils vont avoir à cœur de remontrer en tout cas tout leur potentiel, avec certainement aussi moins de blessures, une préparation qui a été très bonne, où ils ont pu tous travailler ensemble. L'année dernière, ça a été quand même très court pour les internationaux, notamment, entre la fin de la tournée, la préparation, les vacances et la préparation. Là, on sent qu'il y a des internationaux qui ont eu droit à une vraie bonne préparation. Qui seront, je pense, au rendez-vous.
Ils sont même vexés, les Toulousains, pour en avoir discuté durant l'été avec leur manager Hugo Mola pour essayer de lui extirper un vote lors de notre sondage des entraîneurs. Ils ont la pancarte pour ça. C'est que qualitativement et quantitativement, ils se sont renforcés. La ligne de trois quarts, je crois qu'elle est sans équivalent peut-être dans le monde. On a pu voir à Bordeaux, Ramos rate un peu son match. Bah, c'est pas grave, la 50e, il sort et c'est Jaminet qui finit le match et qui passe la pénalité de la gagne. Et puis surtout, ils ont l'impression d'avoir perdu de manière injuste leurs deux titres, notamment durant cette période de fin décembre et tout le mois de janvier qui leur reste en travers de la gorge, où ils ont vu, alors que eux, en raison de la pandémie de Covid-19, ils ont eu un nombre de matchs à domicile reportés, alors que eux étaient aptes à jouer. Et s'en est suivi un printemps de folie où ils jouaient toutes les semaines, avec cette Coupe d'Irlande qu'ils ont jouée en Coupe d'Europe. Et tout ça, ils ne l'ont pas digéré. Que ce soit pour avoir discuté avec un ou deux joueurs, ou notamment avec le manager, ils n'ont pas digéré le scénario de la saison dernière. Ils ne remettent pas en cause le titre de Montpellier, hein, loin de là, ce n'est pas mon propos. Mais ils se sentent vraiment vexés du scénario dans la façon dont ils ont perdu les deux titres. Donc ça, plus un recrutement excellent et intelligent, ils ont vraiment, moi je leur mets la grosse pancarte.
Simon, tu es d'accord sur le recrutement, l'effectif pour toi? Parce qu'il y a les arrivées, on disait Roumad, Jaminet, etc. Il y a aussi Zach Holmes qui part,
Barassi au centre.
il y a Técoré qui part à la retraite. Par contre, si on fait le bilan comme ça, Simon, tu te trouves aussi que l'effectif est encore un cran au-dessus par rapport à la saison précédente?
Ouais, je trouve, je ne sais pas si, comme le disait Pierre-Laurent avant, je ne sais pas si la ligne de trois quarts tant. Alors, surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment une quantité incroyable de joueurs qui sont extrêmement rapides, mais surtout, il y a une profondeur, quoi. Voilà. Ils ne peuvent pas tous les mettre, c'est un truc de fou. Capozzo, il n'était même pas dans le groupe, si je ne me trompe pas, ce week-end. Voilà, vous avez Arthur Retière, Pierre-Luc Barassi, Melvin Jaminet. Enfin, voilà, avec en plus d'autres joueurs à côté, Mathis Lebel. Enfin, ça va aller vraiment très vite, quoi. Donc, c'est vrai qu'en termes de. Moi, la seule réserve que j'aurais, c'est qu'encore une fois, on est dans une année de Coupe du Monde. Et voilà, les joueurs seront absents. Là, pour le coup, à chaque rassemblement du 15 de France, le Stade Toulousain va être sacrément diminué. Et c'est la seule réserve que j'émettrais. Mais moi, je voulais faire juste une petite parenthèse et demander à Imanol, en fait, qu'est-ce que ça change individuellement quand tu prépares, quand tu es dans une année de Coupe du Monde? Est-ce que toi, en tant que joueur, tu as plutôt tendance à avoir peur de la blessure, donc dans un sens, ça peut t'inhiber, ou au contraire, bah, tu vis les choses à fond, tu sais que tu as la pression, tu sais ce qui arrive et tu abordes les choses plutôt de façon en étant conquérant, quoi.
Le meilleur moyen de ne pas se blesser, tu as répondu tout seul, c'est de s'engager à 200%. Maintenant, je pense que le staff est aussi assez intelligent. Je pense qu'à Toulouse, dans d'autres clubs, ils ont su aussi ménager par moment les joueurs pour qu'ils soient en forme pour les matchs importants. Maintenant, la seule chose qui peut un peu changer, c'est peut-être que quand certains de ces joueurs seront blessés, ils se soigneront un peu plus longtemps. J'ai envie de dire, ils prendront peut-être un ou deux jours.
Moins de risques.
Alors, ça s'est quantifié. Le risque, il est toujours présent. C'est toujours très compliqué à trouver le juste équilibre pour un joueur entre la volonté de vouloir jouer et le fait de se dire, si je prends un ou deux jours de plus, j'ai quand même moins de risques de rechuter. Et surtout, si je rechute, quelle va être la gravité de la rechute? Ouais. Je risque de ne plus jouer pendant deux ou trois mois. C'est toujours compliqué parce que parfois, de louper un match, de rester une semaine de plus, en tout cas, se soigner.
Et oui, c'est ça, parce qu'il faut se montrer aussi.
Permettre aux joueurs de bien réenclencher. Mmh. Parfois, on reprend un peu trop tôt. Et derrière, on peut avoir une rechute qui peut être fatale ou en tout cas beaucoup plus longue. Donc, c'est ça qui va être compliqué à gérer pour les joueurs sur une année de Coupe du Monde.
Voilà, une problématique qui va faire à la fois la force et la faiblesse du Stade Toulousain avec son effectif XXL cette saison encore. Et nous, pour la dernière partie de l'émission, on va parler du 15 de France. Antoine Dupont, Charles Olivon ou un autre, qui sera capitaine des Bleus lors de la prochaine tournée? Fabien Galthié a récemment déclaré dans le Midi Olympique que la question du brassard n'était pas réglée en équipe de France. Messieurs, avant de développer avec moult arguments, un premier tour de table pour vous, qui doit ou devrait être capitaine de l'équipe de France, Pierre Laurent?
Antoine Dupont, sans hésitation.
Imanol?
C'est plus dur là.
c'est toujours compliqué. Après, écoute, c'est une bonne question parce que du coup, on a quand même pas mal de joueurs qui pourraient prétendre déjà à ce statut, parce qu'il y a vraiment des tauliers aujourd'hui en équipe de France.
Alors, je fais pas de et qui l'ont fait en plus. Ils ont distribué le brassard.
Il y a plusieurs joueurs qui pourraient porter le brassard. On a vu que quand c'était Charles ou Antoine qui était capitaine, ils ont pu s'appuyer sur plus que des soldats, des lieutenants. Je pense à Grégory Aldrit, je pense que Cyril Baye, Julien Marchand, enfin, voilà, qui sont aussi capitaines, qui est capitaine aussi par exemple à Toulouse. Il y a des joueurs qui peuvent vraiment postuler. La question qu'on s'est posée là, en fin de saison dernière, c'était d'abord pour Charles Olivon de retrouver le niveau international et l'équipe de France. Ça a été fait durant l'été. Il a quand même très bien fini la saison. Là, j'ai l'impression qu'il a fait une sacrée entame aussi. Alors, c'était aussi contre son ancien club, donc je pense qu'il avait à cœur de montrer son niveau. Maintenant, il va falloir d'abord qu'il revienne s'installer dans cette équipe de France, qu'il reprenne sa place, qu'il regagne sa place de titulaire incontesté, incontestable. Ensuite, il a ce leadership et ce charisme pour reprendre le brassard. Maintenant, c'est quand même Antoine Dupont qui a été capitaine. C'est Antoine Dupont qui, en étant capitaine, a levé cette coupe du Grand Chelem. Et ça, dans le vécu collectif et dans le vécu commun, c'est important aussi par rapport aux autres joueurs. Donc pour moi, je pense que c'est pas à nous de répondre. Je crois que c'est les joueurs en fait qui vont répondre à cette question. À mon avis, Fabien Galthié, il a fait le tour un peu des popotes et il a déjà sa réponse. Donc pour moi, oui, c'est Antoine Dupont qui va garder ce brassard de capitaine.
Et toi, Simon, tu es d'accord?
Moi, je suis du même avis. Je suis du même avis que mes deux collègues. Je tiendrais juste à ajouter une nuance qu'on voit de plus en plus dans les clubs. Emmanuel parlait des lieutenants. Et moi, j'observe que de plus en plus dans les clubs de top 14, les managers, et même au-delà, les managers identifient des groupes de leaders, en fait. Et en fait, le capitana, c'est quelque chose de très français. Nous, on a toujours adoré ça. Mais ça n'a plus la même portée ni la même aura que ça l'était avant. J'avais l'impression qu'avant, et on avait vraiment cette image du mâle alpha qui mène sa meute, une meute un peu décérébrée, qui suit aveuglément le leader. J'exagère, hein, messieurs, mais c'est un peu comme ça. Mais maintenant, on a de plus en plus quand même des groupes de leaders, des lieutenants. D'ailleurs, on le voit dans tous les. Il y a des leaders de touche, des leaders de vie, des leaders. C'est même un peu trop. Ça fait même presque licence 3 de management, quoi. Des fois, c'est un peu excessif dans les clubs. Mais encore une fois, le leadership, maintenant, il est partagé entre les joueurs. Et dans un sens, ça commence à me paraître un peu secondaire, cette question du capitaine. Même si, à mon sens, je pense que, voilà, comme on disait juste avant. On attend de voir si Charles Olivon reviendra à son niveau optimal. Ça a l'air en bonne voie, mais pour l'instant, moi je pense qu'il n'y a aucune raison de retirer le capitanat à Antoine Dupont.
Et puis, pour rebondir juste, excuse-moi Pierre-Laurent, sur ce que tu disais sur les leaders, et vous pouviez le lire dans le Midi Olympique et sur Rugbyrama, Fabien Galthié disait qu'ils allaient se réunir avec Julien Marchand, Greg Aldrit, Anthony Jelonche, Charles Olivon, Antoine Dupont et Gaël Ficou. Donc cette
Bah,
idée
tous les anciens capitaines du 15
de
de France.
nombreux leaders qui se réunissent avec le staff pour des décisions comme ça collégiales est totalement assumée du côté du staff de l'équipe de France.
Ça le fait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois en équipe de France, ce groupe de leaders. Je pense que Fabien Galthié, par contre, il a raison de laisser l'option ouverte la plus longtemps possible. Pour l'instant, il est content parce qu'il a pu aussi ménager les égos. Charles était absent, c'était Antoine Dupont. On met Antoine au repos, on remet Charles, ça permet de le remettre dans le bain. Et il se couvre aussi, un des deux se blesse. Donc, ces dernières années, c'est Charles Olivon qui s'est blessé par deux fois, mais on n'est pas à l'abri qu'Antoine Dupont se blesse aussi et ça lui permet de se couvrir. Après, est-ce que moi, c'est parce que je ne suis pas basque et je suis moins solidaire que Imanol vis-à-vis de Charles? Je trouve qu'Antoine Dupont a pris une autre dimension depuis 18 mois, et notamment quand on voit dans ce groupe de leaders qui a été détecté et dévoilé par Fabien Galthié dans Midi Olympique, il y a entre guillemets pas mal d'hommes à Antoine Dupont. Antoine Dupont est devenu aussi le capitaine au Stade toulousain. Le fonctionnement qu'évoque Simon, ça marche énormément en club. En sélection, c'est encore un peu particulier. C'est pas dit. Donc, je trouve que Fabien Galthié et son staff ont raison de laisser ouvert. Après, quand on nous demande un avis, moi, je trouve qu'Antoine s'impose parce que, comme disait Emmanuel, il va falloir que Charles y redevienne d'abord sportivement indiscutable. Au sein d'un poste, on parlait du centre, mais qui t'enlève? Grégory, si tout le monde postule, qui t'enlève? Cette troisième ligne, Jelonche, Aldrit, Cross, elle est quand même
Ouais,
diablement
incroyable.
complémentaire.
Jelonche, qui avait été capitaine lors de la tournée d'été 2021, d'ailleurs,
Quand tout le monde était absent. Hein.
voilà, en
Moi, je
l'absence de
sais
Dupont
qu'il
et
avait
peu
fait
après la
plus que
blessure
répondre
d'Olivon.
au présent, d'ailleurs.
Pardon?
Qui avait fait plus que répondre présent,
Ouais,
pardon.
carrément.
Oui, c'est
Ouais.
vrai,
Ce qui
il avait
souligne aussi
surpris.
dans ce groupe-là de leaders, hein, c'est qu'il y a des joueurs qui sont capables, quand ils endossent ce rôle de capitaine, eh bien, de hausser le curseur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois, un joueur qui peut être très performant, de lui mettre une pression supplémentaire, ça peut l'inhiber. Et là, on voit que ce capitanat, notamment en équipe de France, eh bien, il permet aux joueurs d'élever le curseur et vraiment d'être encore plus performant. Après, voilà. Pour revenir sur Antoine Dupont, par rapport à ce que tu disais, Simon, c'est vrai que c'est moins important peut-être aujourd'hui d'établir comme ça un capitaine, mais un capitaine, il incarne toujours quelque chose. Et aujourd'hui, Antoine Dupont, il incarne la gagne. Et ça, c'est important vis-à-vis de ses coéquipiers. Et d'ailleurs, le fait de réunir comme ça ses lieutenants, de façon un peu collégiale, ça donne aussi de la légitimité au capitaine. Parce que
J'ai
même.
l'impression qu'il fait l'unanimité, même auprès des arbitres, auprès de tout le monde. Comme disait Pierlot, c'est un peu. C'est vrai qu'il est au centre de ce microcosme gersois qu'on se trouve un peu en équipe de France. J'ai l'impression qu'il fait un peu l'unanimité auprès de tout le monde, quoi. Du public, des arbitres, de ses coéquipiers.
Ah,
C'est vrai que.
ça c'est une bonne chose. C'est bien pour les autres joueurs autour parce que c'est quelque part c'est aussi eux qui choisissent leur capitaine. Donc le capitaine a aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux. Donc c'est aussi une responsabilité. Et puis voilà, c'est pas un capitaine qui est imposé par juste un entraîneur ou pas. C'est le copain
C'est le meilleur joueur du monde de l'année dernière, quoi.
Donc non, ça lui permet vraiment d'asseoir sa légitimité et puis aussi d'avoir une certaine redevabilité ou en tout cas une responsabilité vis-à-vis de ses coéquipiers. Et ça, c'est une bonne chose.
Et pour revenir sur le rôle du capitaine et à quel point ça influe sur la préparation d'une rencontre, de l'être ou pas, Emmanuel, toi, tu as été capitaine une fois au coup d'envoi d'un match de l'équipe de France. Tu peux nous en parler un peu, qu'on essaie de se rendre compte de ce que ça représente?
On le vit tous différemment. Hein. Donc, non, je crois que c'est important de rester la personne qu'on est et puis d'amener ce qu'on est. Voilà. Là, dernièrement, c'est quand on regarde un peu les rôles des capitaines, on voit qu'ils n'en font pas trop. Je trouve ça très bien. Notamment que ce soit Charles, quand il était capitaine, ou Jelonge, ou Antoine Dupont dernièrement, en équipe de France. Voilà, on sent quand même beaucoup d'humilité. Peut-être. Ces racines un peu gersoises là qu'ils entretiennent aussi à Toulouse. Donc voilà, c'est forcément d'être le plus performant possible. Après, c'est vrai qu'on n'a plus les pères fouettards qui gueulent sur tout le monde et qui ont besoin de secouer le cocotier dans les matchs comme on le faisait nous à l'époque. En tout cas, de se mettre des grands coups de cigare, ça c'est fini aujourd'hui.
Et de sortir en sprint.
Ils sont plus dans une préparation individuelle avant les matchs. Et voilà, ils sont plutôt même à la cool et ils ont cette capacité à switcher au coup d'envoi. Et tant mieux, c'est rafraîchissant. Mais voilà, chacun le vit différemment. Après, c'est sûr que, voilà, ça, comme je disais, ça peut rajouter une charge émotionnelle aussi, suivant la capacité du joueur à intégrer, à assimiler ce rôle, parce qu'on représente quand même quelque chose de fort, hein, on représente son pays. Donc ça peut être aussi très fort vis-à-vis de l'entourage, donc il ne faut pas se laisser non plus dévorer par ce statut.
Et puis pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, sur l'évolution d'Antoine Dupont, c'est ce qui moi me marque, c'est que c'est vrai qu'il n'est pas le gars qui va élever le ton facilement et souvent, mais c'est là où on voit qu'il a écouté, c'est là où on voit qu'il a progressé, nous journalistes, c'est qu'on le voit quand il parle à ses partenaires, il est écouté, on sent en lui un leader naturel qui était pour le coup, Charles Olivon, sans problème. Naturellement, Charles Olivon, il avait cette aura qui faisait qu'on avait l'impression que tout le monde suivait derrière lui. Ce qu'avait moins Antoine Dupont, tu vois, on le voyait plus comme... en plus, il semblait, parce que c'était juste une impression, il semblait taiseux, et c'était une sorte de facteur X, et il est devenu, moi, c'est ça que je trouve très fort dans son évolution, il a su endosser les habits de capitaine ou de commandant, de leader.
Est-ce que vous pensez justement qu'il y a des postes plus ou moins préférentiels, ou peut-être que c'est devenu archaïque dans ce rugby moderne, pour être capitaine, est-ce qu'il vaut mieux être devant, ferrailler avec les mecs que tu vas plus ou moins diriger, être le numéro 9 qui va glisser un mot à l'oreille de l'arbitre, être le numéro 15 qui a une vision panoramique? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un poste plus ou moins préférentiel ou pas du tout dans le rugby?
Il faudrait que j'en parle à Philippe Saint-André, mais ça m'a toujours étonné qu'un ailier soit capitaine, moi. Pas vous?
Moi aussi.
Hein? Si, parce qu'il y a eu lui, il y a eu Emile Ntamack. Mais par contre, il n'y a pas un poste préférentiel. Je parle sous le contrôle d'Imanol. Il peut me corriger et me taper sur les doigts, mais il y a quand même, si tu regardes bien, il reste des postes où talonneur, troisième ligne, demi de mêlée, parfois demi d'ouverture, mais voilà où se trouvent les capitaines de quasiment toutes les équipes de top 14 et de sélection. Il y a de moins en moins un pilier, pareil, on a eu aussi, les Écossais ont eu un pilier gauche capitaine, il y a de moins en moins, ou de deuxième ligne, à un moment, ça a été notamment du l'époque d'Imanol, que ce soit chez les Anglais, chez les Australiens.
Deuxième ligne hein, aussi. Hein.
Voilà, deuxième ligne, de moins en moins quand même. Il y a eu cette époque, alors Louis Jones, ouais. Il est inoxydable, donc il ne prend jamais sa retraite, c'est pour ça qu'il reste capitaine.
Il a 55 ans.
C'est bon. Mais on voit quand même que, comme le rugby a quand même évolué et va de plus en plus vite, il faut des gens qui a une certaine vision du jeu, pardon pour le 5 de devant et les ailiers, mais on a l'impression que troisième ligne et joueur de la charnière, ça fait des bons capitaines.
Ailier, ça me fait bizarre, moi. Toi aussi, Manol?
Oui, parce que c'est en général, c'est vrai que le poste de capitaine, il est un peu, c'est souvent un joueur de la colonne vertébrale, de l'ossature d'une équipe. Donc, voilà,
il me paraît loin de tout, en fait.
2, 8, 9, 10, même 15, déjà, pour moi, c'est très loin. Et puis, que ce soit un peu au cœur du... Ouais. Il faut que ce soit un joueur qui soit capable de parler un peu aux trois quarts et aux avants. Maintenant, ça peut aussi, Ça peut aussi faire partie d'une complémentarité. C'est vrai que quand on a un Julien Marchand ou un Talonneur qui est capitaine, il a besoin d'avoir un bon relais voilà, en numéro 8 ou au poste de mêlée pour faire passer les informations et avoir un peu plus de recul. Toujours bien d'avoir un peu de recul sur le jeu pour être lucide, parce qu'un capitaine, il a besoin d'être lucide pour prendre les bonnes décisions sur une pénalty, à savoir prendre une pénalty, combien de temps il reste. Enfin, il y a des petites choses qui peuvent faire de grosses différences sur des matchs quand ça va très très vite et quand on a toujours la tête dans le gazon, ça peut être compliqué aussi d'avoir ce recul nécessaire. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plaisir quand même, il y a pas mal de troisième ligne qui sont capitaines.
Ah, parce que vous avez tellement la classe, vous les troisième lignes, sérieux.
Parfait, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Messieurs du middle, est-ce que vous avez un peu de teasing à nous faire pour l'édition de vendredi du Midi Olympique, un dossier, un gros article dont vous êtes
particulièrement... Alors, pas pour l'édition de Midi Olympique, mais en bon remplaçant et pas finisseur, parce que je déteste cette expression. je vous présente le Rugbyrama, le guide de la saison, voilà, qui sort ce lundi, voilà, qui est tout chaud, qui vient d'être imprimé, qui fait plus de 200 pages parce qu'on descend jusqu'au niveau amateur. Donc, on a essayé de, pendant tout l'été, Simon est bien passé pour le savoir, de récolter tous les effectifs, bien sûr des équipes pro, top 14 pro D2, mais aussi National, National 2, Fédéral 1, Fédéral 2.
Avec des donc, fiches détaillées sur tous les clubs,
taille poids au 1er septembre. Voilà. C'est le 35e numéro, c'est un classique, voilà, ça s'adresse vraiment au fondu de rugby. Mais dans ce podcast, on s'adresse aussi à des fondus de rugby.
Ceux qui veulent tout savoir, voilà, pour la saison à venir.
Parfait, le rendez-vous est pris. Merci messieurs, et pour Arrêt Buffet, le rendez-vous c'est jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.